pas une chasse orientale. J'ai réfuté totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lukumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. La Société nationale d'électricité SNEL en sigle fait face à d'énormes difficultés quant à la fourniture de l'énergie électrique devenue précaire à cause du vieillissement avancé des machines installées à Inga 1 et Inga 2. Eric Mbala, l'administrateur délégué de la SNEL, l'a déclaré le mercredi dernier au cours d'un entretien avec les journalistes et hier devant les députés nationaux. Le numéro 1 de la SNEL a également fixé l'opinion sur les efforts que mène son entreprise pour la remise en service du groupe 4 d'Inga 2 et la poursuite des travaux à la centrale de Zongo afin de soulager les populations. Alors, nous allons faire les débats avec vous. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer en direct en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 63 15 pour votre appel en direct. Donc, toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Sylvain Matindou est à la technique. Fête à Julie Bongonda est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nguemo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguemo.
Merci à vous tous qui nous avez envoyé des messages par rapport à cette thématique. Ngote Socrate, John Mouteteke, Alain Moutoula, JR Group International, également Emmanuel Lebrom, Manga de Bukavu, Dani de Boutembo, David Bondé de Viram, Passi Amafuta de Goma, Eddy Ayung Poba de Kivu, Alain Chatua, Jacob Mbangi, Glem Mabutu, Gauthier Kamamba de Katanga, du Katanga, Kani Lubango, et Corneille Mouam bas de Kananga. Mesdames et messieurs, encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio M. Georges Bakali, communément appelé, donc connu sous l'appellation de Joe Bakali, PDG honoraire de la SNEL. Bonjour, Yadjo. Ah,
bonjour.
Voilà, alors en ce moment, c'est vrai, nous avons tous suivi l'actualité. Nous avons en fait retenu une chose, les responsables de la SNEL aujourd'hui déclarent qu'effectivement il y a des problèmes au niveau de Inga 2, et, pardon, Inga 1 et Inga 2, mais tout de même, ils font quand même des efforts pour arriver à remettre en service le groupe 4 d'Inga 2 et la poursuite des travaux de la centrale de Zongo afin de soulager la population. Ces discours, on a entendu quand vous étiez aussi aux affaires. Et qu'est-ce que cela peut nous inspirer? Est-ce qu'on est vraiment au bout du tunnel?
Tout dépend du point de vue dans lequel on veut bien se placer. Tout à l'heure, vous avez cité les villes, les territoires où se trouvent vos auditeurs. Or, sur la thématique telle que présentée, une grande partie de ces auditeurs ne trouveront jamais la réponse à partir de ça parce qu'ils ne sont pas concernés. Si on parle d'un groupe à Inga, de Zongo, à la limite, nous ne pouvons considérer que nous sommes intéressés.
Le Bakongo,
au Katanga, les miniers, c'est vrai, mais c'est surtout pour les auditeurs. Ça concerne plus les auditeurs du Bakongo, les auditeurs de Kinshasa, dans une certaine mesure, les auditeurs de la ville de Bandung. Au-delà, les auditeurs de Mandaka, les auditeurs de Manono, les auditeurs de Bouende, les auditeurs de Moneditu ne sont pas concernés.
Mais pourtant, la production de Inga 1, Inga 2, ça peut quand même desservir toute la République.
Négatif, parce que bon, ça peut bien. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on dit souvent que la production hydroélectrique, la production à partir des eaux, est la plus propre, parfois la moins coûteuse. Mais le malheur, c'est que cette production a une particularité. Le site de production est situé là où Dieu a bien voulu la situer. Et bon, Dieu fait toujours bien les choses, mais il ne l'est pas toujours situé là où on veut la consommer. Cela veut dire qu'il faut construire des lignes de transport dont le coût d'investissement est important et surtout le coût d'exploitation est important. Bref, dans la configuration actuelle, quand on parle d'Inga 1, 2, Zomo, ça exclut tout le reste. La problématique posée ne les concerne pas. Or, c'est ce qui est parfois trop gênant, c'est que aujourd'hui, Radio Okapi est sûrement suivi
à travers le pays et même à l'extérieur.
Il faudrait dès le départ dire que la problématique que nous soulevons aujourd'hui concerne essentiellement et totalement que le Bas-Congo.
Parce que dans le projet Joe Bakali, il était question que là où, en tout cas, on pouvait transporter les courants facilement, de l'énergie facilement pour desservir Kinshasa, Bas-Congo, à la limite Bandundu, mais les autres pouvaient bénéficier quand même des micro-centrales par rapport aussi au cours d'eau qui se trouve dans l'air-terrain.
Oui.
Et tout ça, c'est dans le projet de l'électrification du pays.
Je suis d'accord.
Et qui rentrait dans les cadres qui viennent de.
Je suis d'accord avec vous, mais je parlais de la thématique, de la problématique posée par cette
émission. Alors, abordons maintenant la question dans son ensemble. Aujourd'hui, comment on n'arrive pas à donner de courant à toute la population congolaise?
Oui, mais ne sautons pas les étapes. Là, nous parlons de fournir de l'électricité dans des meilleures conditions de fourniture de la partie de la République qui en a. Bon. Je veux bien, on peut sauter, laisser tomber ça et voir l'ensemble. Mais parlons d'abord de cette partie. Ma remarque s'adressait plus aux auditeurs en leur disant, parlons d'Inga, il n'y a qu'une partie de la République qui est concernée. Évidemment, je ne sais pas si les auditeurs aborderont le problème au-delà d'Inga.
Oui. Ils ont abordé toutes ces questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la CNEL, c'est la Société Nationale d'Électricité, qui a une mission donnée de pouvoir aussi donner du courant à la population. C'est vrai, partie ou pas partie, mais du moins, tout le monde sait, en tout cas les communs des mortels, c'est que la CNEL a comme mission de donner du courant. En tout cas, pour être plus simple, donner du courant à la population. Mais aujourd'hui, la CNEL a d'énormes difficultés telles que les reconnaissent les responsables de cette entreprise.
Bon,
nous avons commencé par dire, le langage, vous l'avez tenu quand vous étiez au CNEL.
Effectivement, c'est-à-dire, cette mission que vous définissez si bien de la CNEL, effectivement, les créateurs de la CNEL, la CNEL est créée depuis 1974, les créateurs de CNEL avaient confié comme mission à la CNEL, non pas d'électrifier seulement cette partie-là, mais d'électrifier l'ensemble de la République. Électrifier, étant donné que le courant sert pour le pauvre citoyen comme toi et moi, qui nous offre le confort de l'électricité, mais il faut savoir que l'électricité est aussi un facteur de production, c'est-à-dire un facteur de développement, parce que les industries utilisent l'énergie électrique pour la production. Donc voilà la double mission qu'on a confiée à la CNEL. Maintenant, vous me posez, à raison d'ailleurs, vous me dites, vous avez dit la même chose. Effectivement, j'ai dit la même chose. Mais il n'y a pas que moi.
Même
avant
même
moi,
même tous vos prédécesseurs, même
les prédécesseurs, tout le monde est.
Toujours le même discours, il y a des difficultés, nous devons les faire.
Je rigole souvent, un de mes prédécesseurs qui fut mon patron, quand moi je deviens un PDG, je passe à une émission, il me dit, Bakali, vous savez, quand vous parlez, je me vois en train de dire la même chose il y a 15 ans.
Même avec les yeux fermés.
Même avec les yeux fermés. Alors, moi, je l'ai dit aussi aujourd'hui, ce n'est pas, il y a des très grands ingénieurs à la semaine, mais je leur dis toujours malheureusement.
Donc, quand vous suivez les responsables de la semaine aujourd'hui, donc vous avez la
vous
même
chose. Vous continuez à dire
la même
exactement
chose.
Ce que moi j'ai dit
il y a
pendant 7, il y a 17 ans. Vous dites la même chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est grand temps qu'on s'arrête et qu'on se dise, mais pourquoi tous ces ingénieurs? Parce que je vous le dis, moi j'étais à la CNEL, j'ai la particularité d'être le seul non-ingénieur à avoir dirigé la CNEL, mais la CNEL a de très bons ingénieurs. Mais ils échouent tous.
Mais c'est quoi les problèmes?
Ah ben, le problème, c'est la question que nous devons
poser. Parce que la gangrène, demain, il faudrait quand même qu'on enlève cette gangrène pour
moi,
que le mal soit apaisé.
Je vous pose une question. Bon, il faudra laisser la place aux auditeurs aussi.
Tout à fait,
une question. L'homme qui épouse pendant sa vie une vingtaine de femmes. La première à moi, c'est Azamara Mouteba Bengani. La deuxième, Azamara Mouteba Bengani. La troisième, je crois qu'à la dixième, on va se poser la question de l'homme lui-même. Moi, je crois que le débat aujourd'hui, c'est de se poser la question. Est-ce que la SNEL, dans sa configuration actuelle, est-ce que ce pays, compte tenu du cadre institutionnel et juridique, dernièrement, les députés ont voté la loi sur l'électricité, est-ce que ce cadre permet à une société comme la SNEL de remplir sa mission.
Elle est devenue une entreprise commerciale aujourd'hui.
Oui, mais entreprise commerciale. Ben oui, ce n'est pas parce que vous changez de nom ou de statut que ça change. Ça, c'est le statut juridique. Mais le cadre institutionnel, je crois, est resté le même. Ça veut dire que même cette entreprise qui a changé de statut juridique bénéficie toujours du monopole de fait. Le monopole, pourquoi ? Parce qu'il est le seul transporteur et le seul distributeur. Tous les réseaux de transport appartiennent à la SNEL. Tous les réseaux de distribution dans les grandes villes appartiennent à la SNEL. Alors, comment voulez-vous qu'un investisseur vienne, s'il investit dans la production, mais la SNEL lui dit, oui, vous avez la production, mais le réseau m'appartient. Vous voulez donner du courant à Kinshasa? Oui, c'est bien, mais vous passerez où? Puisque le réseau de distribution m'appartient. Moi, je crois que la réflexion doit porter sur ça. Est-ce que ce monopole de fait a profité au pays?
Et quand est-ce que ce monopole est devenu défaillant?
Non, il est devenu défaillant. Progressivement, la question que nous...
C'est pas quelles années c'était pratiquement quelle année
Non, la question, posons-nous la vraie question. La question que nous devons nous poser, compte tenu de l'immensité du pays, compte tenu des moyens qu'on doit mobiliser pour électrifier le pays a-t-il intérêt à avoir un seul opérateur qui bénéficie d'un monopole de fait? C'est ça la question. Quand vous me posez la question de savoir
quelle période, moi je suis
arrivé à la SNEL en 1981. Déjà en 1981, j'ai trouvé à la SNEL une cellule technique. On me dit, c'est quoi? Ah, il sert à l'assainissement. Bon, en sémantique, assainir, c'est rendre sain quelque chose qui n'était pas sain. Cela veut dire que depuis 80, la SNEL avait compris que déjà son réseau, ça n'était pas sain. Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui, quand vous lisez un programme de la SNEL, on vous dira toujours programme d'assainissement. Mais quand un corps reste n'est pas sain pendant 30 ans, il devient cancéreux. Ça veut dire qu'on ne peut plus. Ça veut dire même le réseau, il faut le revoir.
081-890-7315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Docteur Richard est à Kinshasa, Mathieu à Kananga, Franklin à Bukavu. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à notre invité.
Voilà, vous avez suivi notre invité et vous connaissez bien la thématique. Quel est votre point de vue, Docteur Richard?
Oui, mon point de vue s'articule au niveau de trois petits points. Le premier point, sous la tristesse, je pose la question, quel était le plan de gestion de cet ouvrage qu'on appelle barrage de Inga avec toutes ses attributions? C'est-à-dire production de l'électricité, transport et puis distribution. Est-ce que le plan de gestion comprenait ce que notre conférencier, disons, invité vient de dire, c'est-à-dire l'électrification de tout le Congo afin d'assurer le confort et le développement? Deuxième petite préoccupation, de ce plan de gestion, est-ce que on avait tenu compte du plan de M. Delcommune? Parce que M. Delcommune, qui est immortalisé par un barrage qui se trouve au Katanga, avait préconisé que l'on ait des micro-barrages pour le développement des communes des cités à partir de l'électricité de proximité. Mais devant la grandeur du bumbutisme à l'époque, parce qu'il fallait investir dans la politique des grands travaux, que nous trouvons aujourd'hui sans gestion dans la suite,
on avait mis le plan de Dell commune dans les tiroirs. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Troisième préoccupation, est-ce que dans la libéralisation de la production d'électricité, les parlementaires connaissent l'histoire de l'électrification ou de la production électrique dans notre pays? Les deux petits points que je viens de citer, les gens connaissent ça? D'autres sont nés après cette tente ici. Ils connaissent pas l'histoire, ils doivent être enseignés. Alors, le problème c'est quoi? Lorsque on entre dans l'aventurisme sur le plan de la gestion, un ouvrage comme Stinga, qui avait la vocation de vendre le courant à l'extérieur, et les micro-barrages pour le développement de proximité des nos entités, on est perdu. Quand on n'a pas ça, on est perdu. On présente le bilan que nous avons là. C'est comme quelqu'un qui achète un avion, on ne change pas les filtres de moteur, on ne change pas les huiles moteur, vous ferez le crash, peut-être au décollage ou à l'atterrissage, ou avant d'arriver à destination. Voilà ma préoccupation.
Merci beaucoup, Dr. Richard. Là, vous résumez carrément notre invité qui parlait tout à l'heure d'un corps qui est resté pendant longtemps malade. Je crois que va développer, ce que nous appelons, il deviendra cancéreux dans la mesure où il n'y a aucun soin qui est administré. Et vous, vous avez parlé peut-être de, vous avez utilisé un autre terme, le plan de développement des proximités qui ne tient pas sa route en proposant donc effectivement, les gens rentrent dans l'historique et aussi dans l'histoire du pays pour comprendre un peu les tenailles et les aboutissants de cette problématique. Merci beaucoup. Mathieu, vous êtes à Canada. Bonjour. Mathieu, vous êtes avec nous. Voilà, on prend Franquin qui est à Bukavu. Franquin, bonjour.
Bonjour, Thierry. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, Franquin.
Quand on nous a enseigné la notion de l'État failli, nous croyons que c'était une fiction. Mais au fur et à mesure que l'on observe de l'État congolais, on comprend qu'il n'est pas loin d'être un État failli. Parce qu'il est devenu incapable de réduire, de reproduire les conditions de sa propre existence. Regardez ce qui se passe dans toutes les autres, dans tous les autres secteurs de l'administration publique. Mais vous pensez que la SNEL peut faire l'exception? C'est la condition liée même au fonctionnement de l'État. La RDC est un État qui a essayé de prestations très faibles. La RDC présente une très faible performance de prestations, malgré les ressources humaines, économiques et financières que nous disposons. Moi, je vous donne juste un cas. Ici, nous avions un micro-barrage ici au sud Kivu qui était géré par les privés. Je vais parler du micro-barrage de Kamituga. Par le privé, au moment où c'était géré par le privé, les choses marchaient très bien. Mais aujourd'hui, on est en train on a fait passer ce micro-barrage entre les mains de la SNEL, entre les mains de l'État. On a déjà des goupilles, on a déjà des l'étage, et les choses ne marchent plus bien. Pourquoi? Moi, j'ai dit que lorsque les choses semblent être gérées par le privé, les choses marchent bien, mais si ils sont confiés par entre les mains de l'État, ça ne marche pas bien. Le problème, à mon avis, n'est pas la SNEL. Le problème aujourd'hui, c'est la politique. Vous savez, la politique est l'activité humaine fondamentale qui permet aux hommes de vivre dans un cadre organisé. Mais lorsque la politique ne marche pas bien, lorsque l'administration ne marche pas bien, il ne faut pas s'apprendre à la SNEL. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question qui a été soulevée par le directeur de la SNEL est une très bonne question et il a bien fait à dénicher cette situation. Mais le problème qu'il a, c'est que ce n'est pas à lui qui révèle la solution de cette question. La solution est un peu globale et elle est liée au fonctionnement même de l'État. Et donc, si aujourd'hui on veut parler de la SNEL, parlons de l'État dans son ensemble. Plusieurs émissions, nous les organisons ici. Vous sentez que dans plusieurs secteurs, dans tous les autres secteurs, les choses ne marchent pas bien. Ce n'est pas seulement la SNEL qui va faire l'exception.
Oui, Franca, qu'est-ce que vous vous proposez concrètement?
Qu'est-ce que je propose? C'est que moi je propose qu'il faut qu'il y ait une réforme complète de l'administration publique. Lorsque notre administration, lorsque notre État commencera à fonctionner comme les autres États, lorsque notre État...
Et c'est à ce moment-là que la salle pourrait...
C'est à ce niveau-là qu'il doit résoudre d'autres problèmes.
Donc si je comprends bien, Franquin, vous avez votre mal à patience, le temps que cela va prendre, le travail ou l'exercice de la réforme de l'administration qui aura, selon vous, comme conséquence, la réforme aussi de l'administration de la SNEL. Merci Franklin. On va essayer à nouveau Mathieu qui est à Canada. Mathieu, bonjour.
Oui, merci bien de pouvoir m'accorder la parole, monsieur.
Vous avez la parole, Mathieu.
Bon, c'est automatique à partir des panneaux. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit, après mes analyses, qu'il y a des mots qui sont à la base de tous les échecs que nous traversons dans ce pays, la République démocratique du Congo, actuellement. Il y a manque de volonté politique et maintenir des incompétents dans de hautes fonctions du pays compte tenu de leur tendance politique. Comment nous continuons encore de parler des crises très petites concernant les courants
de la société nationale de l'électricité? Oui, Mathieu, je crois que vous connaissez très bien l'histoire ou l'historique de la CNEL. C'est vrai, notre invité l'a dit, il a été parmi, en tout cas le seul, parmi tous les responsables qui se sont succédés, à ne pas être ingénieur, disons, pour être à la tête de cette entreprise. Donc, pouvons-nous vous dire, il y a eu des hommes compétents qui ont été à la tête de cette entreprise et qui avaient toutes les potentialités pour aider cette entreprise à sortir quand même, ou atteindre le bout du tunnel.
Oui. Le pouvoir de la société nationale de l'électricité, bon, moi je vous dis ici, monsieur le chef, les chefs de l'État, lors de son investissement en 2011, dans son message à la nation, avait dit qu'une électricité reste sa priorité. C'est vraiment déplorable d'entendre encore parler.
Oui, mais Mathieu, je crois que je ne suis pas, encore moins mon intention d'être conseiller à la présidence de la République, mais du moins je sais qu'il y a eu des projets qui se sont succédés, notamment à Kakobo, là, il y a eu Katende, il y a tant d'autres qu'on vient d'initier tout récemment, donc on peut dire qu'il y a déjà un départ quelque part.
Bon, moi je vous dis que, d'abord, parlons de ce que je vis ici, à Sananga. Là où on parle de district Katendela, nous sommes dans la si vous venez à partir de 23h à Tananga ici, vous n'allez pas comprendre que vous engagez ici.
Mais on n'est pas encore à la fin du travaux, Mathieu.
C'est vraiment déplorable.
Voilà, et c'est déplorable. C'est pourquoi nous réfléchissons pour trouver cette chose. Merci beaucoup, Mathieu. Jean des Dieux, vous êtes à Kikwite. Bonjour, Jean des Dieux.
Bonjour, M. JR, et bonjour aussi à notre invité.
Vous avez la parole, Jean des Dieux.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Bon, vous voyez, vraiment, c'est déplorable, surtout ici à l'intérieur que nous sommes dans le province, d'entendre que Kinshasa qui est le sommet et que les gens sont toujours dans les noirs. Donc, par mois, les gens reçoivent même deux ou trois fois le courant dans leur maison et d'autres jours, là, c'est toujours des messages. Ça fait vraiment mal d'entendre ça, surtout dans les capitales. Maintenant, nous qui sommes à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons dire? C'est nous qui sommes à l'intérieur où nous n'avons pas encore les revendications, où nous voyons des portes qui restent monument, qui ne fonctionnent pas, des groupes de l'étrogène, des gros groupes qu'on a envoyés ici. Ça ne sert absolument à rien de voir pouvoir s'allumer, si qu'il y a des manifestations, il y a des politiciens.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean des Dieux, d'avoir appelé les Kikwite. Et puis, nous allons lire le message d'Ngoje Socrate, qui dit, ça m'est très, très mal, en tant que fils du Congo, Kinshasa, d'entendre des entreprises publiques qui ne méritent jamais de telles déclarations. En tout cas, voilà, je découvre ça à peine, qui montre l'incapacité managériale de leurs responsables. Et je pense qu'il faut changer de responsable, donner de nouvelles conditions pour le bon fonctionnement des entreprises publique. La CNEL a de l'argent et si cet argent est bien mobilisé pour son bon fonctionnement, il n'y aura plus ces déclarations. Voilà, Joe Bakali, la CNEL a beaucoup d'argent.
Bon, je crois que le débat avec les auditeurs, j'ai vraiment apprécié. Mais avant de répondre à la question, j'ai épinglé deux affirmations, je crois, qui montrent que les Congolais s'intéressent vraiment. C'est le monsieur qui a parlé du projet
de micro-barrage
Belle Commune, hein,
oui, commune, oui.
Au fait, c'est pourquoi je dis, nous vivons aujourd'hui en matière d'électricité de la stratégie, de la vision bonne ou mauvaise. Je crois que l'histoire est seul juge de Mobutu en 67 quand il décide de construire Pinga. Évidemment, il y avait un débat. Ce débat
Non,
pas celui-là. Même pendant la colonisation, est-ce qu'il faut construire le grand barrage d'Inga ou avec les moyens qu'on a, répartir les efforts dans toutes les provinces. C'est ce que lui a appelé le projet des communes. Il y a eu ce débat-là, effectivement. Bon, l'autorité politique de l'époque a opté pour l'autre. Mais il est évident, quand on lit l'histoire, c'est qu'en optant, on sent bien qu'il ne mesurait pas l'impact. Parce que c'est comme s'il disait, écoutez, je construis une gare et tout le Congo aura l'électricité. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle encore de Inga, oui, 3, Grand Inga. On dirait que les gens disent le même discours, donnent l'impression que quand on aura Inga 3, on aura... Donc, il faut éviter cette erreur-là. La deuxième question, c'est que les gens ne replacent pas souvent la SNEL dans sa stratégie. La SNEL fait suite, justement, à la stratégie, comme Mobutu construit Inga, il dit... J'ai créé une grande société d'électricité qui va gérer tout ça. Et je crois qu'un auditeur a soulevé le problème d'une petite centrale qu'il appelle à Kamituga. Mais des centrales comme ça, surtout à l'Est, il y en a plusieurs qui étaient propriétés des entreprises minières. C'est comme les quatre grandes centrales du Katanga appartenaient à l'Union minière, c'est-à-dire à Agécamine, pas à la SNEL. On a pris toutes ces centrales, on a confié à la SNEL. C'est pourquoi moi je dis, au-delà de la capacité managériale de Congolais, je crois que nous sommes des hommes comme tout le monde. Il y a pas, au-delà de ce débat-là, la question est de savoir, un, est-ce que la stratégie Inga a été la meilleure? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la stratégie SNEL, ça veut dire prendre tout ce qui avait comme usine de production d'électricité.
L'actif et les passifs ?
Non, toutes les centrales. Hydroélectriques, même thermiques, même dans les villes comme Kananga, les Belges, c'était des centrales thermiques. Mbandaka, c'était des centrales thermiques. Tout ça, on a donné à la SNEL. Est-ce que cette stratégie fut la meilleure ? Moi, je crois que les deux questions sont celles-là. Ça fait 40 ans, ça n'a pas marché. Bon, le petit enfant dira 40 ans après, si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas bon.
Alors, il faut changer.
Alors, il faut changer.
Et qu'est-ce que
alors, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut changer d'abord le cadre juridique et institutionnel. Cela veut dire quoi ? Je lisais la loi sur l'électricité. Mais la loi sur l'électricité pèse par le fait que, de manière institutionnelle, si l'État laisse la propriété de toutes les centrales et de tous les réseaux de transport et de tous les réseaux de distribution, Kamituga restera toujours propriété de la SNEL. Et la SNEL ne fera rien. Ne fera rien. Et les réseaux...
Et Kakobola et Katende...
Bon, Kakobola, ça dit, on dira... Il n'y a que la SNEL qui peut la construire. Parce que si vous construisez Kakobola, mais si le réseau de Kikwit appartient à la SNEL, celui qui aura financé Kakobola, il fait quoi avec l'électricité ? Puisque pour vendre, il devra demander au propriétaire du réseau. Donc voilà, il y a là un grand débat. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je crois qu'il y a un grand débat qu'il faut avoir. Or, justement, 40 ans après, malgré l'échec dans un secteur qui est vital pour la République, il n'y a pas de débat. Moi, je vois aujourd'hui les gens réfléchir sur Inga 3 et le grand Inga. Mais le drame, c'est qu'ils disent qu'ils réfléchissent exactement comme les ingénieurs de Mobutu ont raisonné en 67. On construit Inga, tout le monde. Et aujourd'hui, pire, ils disent qu'on construit pour vendre. Vous allez vendre où ? Il n'y a pas un mois, l'Afrique du Sud vient de signer avec la Russie pour 30 milliards de dollars de centrales nucléaires. Vous pensez vraiment que dans 10 ans, 20 ans, un économiste sud-africain va dire achetons de l'électricité à 3000 kilomètres alors que nous avons des centrales. Alors, arrêtons. Et puis, comment voulez-vous que tout le monde sait, l'Afrique du Sud a 54 000 mégawatts aujourd'hui. Ils pensent avoir 100 000. Le Nigeria pense que dans 2050, il doit avoir au moins 200 000. la RDC,
mais nous n'avons pas de problème avec la
RDC, produire 4000 mégawatts et vendre 2000. Nous, on sera où nous-mêmes.
081.
C'est ça le débat qu'il faut avoir.
081-890-7315 pour votre intervention directe. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange de citoyens. Bob, vous êtes à Guadeloupe. On va vous accorder la parole dans un instant.
Parole aux auditeurs.
Bob Sédar, vous êtes à Guadeloupe, à l'Équateur. Bonjour, Bob. Bob, vous êtes
bonjour, M. Chien, c'est Bob Sédar Boccoli, bonsoir.
Voilà, M. Boccoli, vous avez la parole.
Oui, M. Chien, permettez-moi d'aborder les questions sur des volets. Ok. Le premier volet, ce n'est pas sur le cadre juridique que M. Bakali est en train d'évoquer. Le problème qui se trouve au Congo aujourd'hui sur l'électrification ne concerne pas le cadre juridique. C'est le problème lié à la volonté politique et à la libéralisation des secteurs électriques. Nous avons des autorités qui ne sont même pas à l'intérêt général du pays. Si M. Bakali est en train de parler du cadre juridique, vous n'êtes pas ignoré avec moi qu'en 2008, le procureur avait édicter une loi sur
la
transformation des entreprises du portefeuille. Vous considérez que la SNL fait partie des entreprises du portefeuille qui a été transformée en société commerciale. Alors, si M. Bakali nous parle de cadre juridique, cette loi dit ceci: on transforme les entreprises pour leur rendre compétitives. Compétitives veut dire quoi? Nous sommes les intellectuels. Compétitives veut dire promouvoir à l'intérêt général tout court. Nous n'est pas si nous verser dans des contradictions ici. La compétitivité et tout, faire en sorte que la SNEL soit une société qui concourt à la promotion des intérêts généraux. Ça, c'est sur la volonté politique. Du coup, vous dites qu'au Congo, il n'y a pas la volonté politique. Moi, je suis en Guadeloupe. Il y a un barrage hydroélectrique qui est en train de fournir le courant au niveau de Centrafrique. Alors que moi, à Ouagadougou, avec 4 km ici, nous sommes dans le noir. Moi, je suis à Ouagadougou, je suis électrifié, mais mes concitoyens qui sont avec 4 km ici, n'ont pas accès sur le courant électrique. Alors, pour une proposition, moi, je souhaite qu'on ne reste pas dans le débat sur le cadre
juridique.
Moi, je préfère à ce que l'entreprise SNL soit libéralisée. Je ne sais pas si il y a une loi sur la libéralisation.
Voilà,
je ne suis pas expert en la matière, mais je souhaite que s'il y a la libéralisation pour permettre aux opérateurs économiques qui détiennent des moyens d'investir au niveau de la SNL pour que toute l'étendue du pays soit rectifiée. Je ne suis pas expert en la matière, je suis juste en formation, étudiant en faculté de droit à l'université.
Je suis
soucié de voir que le M. Bakali est en train de nous verser dans les contradictions et moi je ne partage pas avec une
question
la volonté politique et l'absence de la notion de libéralisation. L'entreprise publique est monopolisée.
Peut-être vous avez pris en cours de l'émission, M. Bakali l'a insisté quelque part. Bon, je ne suis pas son avocat et je crois qu'il y a des moments à l'autre il pourrait revenir, je crois, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe. Oui, allez-y.
Bon, Monsieur Bob, je crois que nous disons la même chose, mais chacun le disant à sa manière. Vous dites libéralisation, je ne vais pas vous faire un cours d'économie sur la libéralisation. La libéralisation, l'objectif c'est quoi? C'est attirer ceux qui ont de l'argent à investir. Ceux qui investissent, investissent pour gagner de l'argent. Si on est d'accord sur ça. Ce n'est pas parce que vous changez le statut d'une société que vous modifiez et vous la rendez plus performante. Quand je parle du cadre juridique et institutionnel, c'est justement pour rencontrer votre objectif. Ça veut dire qu'il faut que le cadre juridique et institutionnel permette à celui qui a l'argent de venir investir. Et en se disant, quand j'investis, je veux gagner. Vous avez une centrale à Guadeloupe. Mais cette centrale appartient à la SNEL. Comment voulez-vous que, vous, si vous aviez de l'argent, et qu'on vous dit la centrale de Guadeloupe a besoin de 10 millions, vous donnerez vos 10 millions dans la situation actuelle? Justement, on voudrait que demain, celui qui a l'argent, puisque la SNEL n'en a pas, qu'ils puissent investir. Donc, quand je parle, ce que Copyright a fait, c'était strictement juridique. Vous êtes étudiant en droit, ça, c'est les juristes. Je parle du cadre institutionnel de l'électricité. Il faut que dans notre pays, que ça soit un Congolais ou un étranger qui veut investir dans l'électricité, qu'il vienne investir. Il peut construire des barrages et s'il veut vendre, il accède au réseau de transport dans les mêmes conditions que la SNEL si la SNEL était là. Or, aujourd'hui, quelqu'un qui construit une centrale, qui met de l'argent au barrage de Guadolite, il ne pourra pas vous vendre à vous parce que le réseau de transport et de distribution de Guadolite appartient à la SNEL.
Voilà, on va prendre pour notre auditeur, M. Bakali, mais laissez-moi vous poser quand même juste une question de curiosité, parce que nous savons que au début des années 2000, hein, la Banque mondiale, partenaire quand même à la RDC, a appuyé en tout cas à la RDC dans les secteurs pour pouvoir améliorer quand même la condition des dessertes en électricité à la RDC. Nous avons vu, en tout cas pour ne pas les citer, des responsables de la SNEL au début des années 2000 qui ont été parce que, bon voilà, l'affaire des 192 millions, la Banque mondiale versait de l'argent, mais comment on n'est pas arrivé, en tout cas, même j'imagine, que même bien avant cela, avant 2000, vous avez été aux affaires, la Banque mondiale a toujours appuyé la SNEL pour réhabiliter les turbines d'Inga 1 et Inga 2, mais aujourd'hui, on a toujours du mal. Est-ce que ces partenariats tiennent vraiment été tout efficace?
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous me donnez une information que je ne connais pas, je ne peux pas répondre sur... Mais je vais vous dire ceci, simplement. Je vous ai dit, ça fait 40 ans que nous menons une stratégie. Dans la stratégie que nous menons, la Banque mondiale nous accompagne depuis 1980 à peu près. Ça veut dire que ça fait aussi 34 ans. La Banque mondiale est un opérateur dans ce secteur-là. Alors, je me pose la question. Si la stratégie échoue, autant nous, cadres congolais, et on travaille à la semaine, nous devons en assumer la responsabilité. Autant nous, gouvernants, deuxième, troisième république, partout, nous devons en assumer, mais la Banque mondiale aussi, parce qu'il y a beaucoup de choix. En tout cas, moi, j'étais à la semaine, j'ai travaillé à la Banque mondiale. Un jour, j'ai même posé la question à un représentant de la Banque mondiale s'agissant du projet Copyright. J'ai dit, monsieur, moi, à la semaine, la Banque mondiale a financé pour plus de 10 millions de dollars pour faire des études de réforme institutionnelle de la semaine. On a fait avec vous. Vous voulez me dire aujourd'hui que tout ce qu'on a étudié là était mauvais et qu'il faut recommencer. Donc moi... Je ne veux pas m'attaquer à la Banque mondiale.
Voilà. On va prendre l'ingénieur Mangoyo, Michel Matadi, et puis Nestor, qui est également. Non, il est en Bujimaï. Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Bonjour, M. Gère.
Vous avez la parole.
Merci, M. Gère, pour m'avoir accordé la parole. Je crois qu'on ne cessera de parler de la SNEL dans ce pays, parce que c'est vraiment vital. Je salue aussi notre invité que je connais très bien, M. Joe Bakali. Alors, je vais aborder cette thématique dans trois dimensions. La première, ce sont les préoccupations des questions que je voudrais bien poser à notre invité. Monsieur Bakali a dit, si je me souviens bien, qu'il a été à la SNEL vers les années 80. Est-ce que Monsieur Bakali peut nous dire quels étaient les chiffres d'affaires de la SNEL au moment où il était, lui, aux affaires? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelles sont réellement les difficultés que lui avait rencontrées dans sa gestion par rapport, au regard de ses rapports avec les politiques? Parce que nous savons aussi que les mandataires sont nommés par le pouvoir public. Quels étaient ses rapports et les difficultés qu'il a dû rencontrer par rapport à ça? Et troisième question, quelle a été sa politique d'assainissement du réseau de la SNEL? Parce que c'est vrai, aujourd'hui on parle de la restauration, des financements, de Inga 1, Inga 2, Inga 3, Inga 4. Mais la situation existante nous renseigne que il y a des problèmes au niveau des réseaux, au niveau même de la maintenance des équipements, des cabines, des câbles, et ainsi de suite. Quelle a été sa politique à cette époque-là? Je viens maintenant pour la deuxième dimension, c'est sur la réforme, puisqu'elle a parlé aussi du cadre juridique, et ici, je lui donne en partie raison, mais moi, je voudrais insister sur un fait. C'est vrai, il n'y a pas de volonté politique, parce que c'est depuis 2008, comme l'a dit un précédent, celui qui m'a précédé là, depuis 2008 qu'on a opéré la réforme au niveau des entreprises de portefeuille. Et la SNL, depuis, est devenue société commerciale. Mais on parle de la libéralisation. Mais je crois que cette loi-là consacre déjà ces faits-là. Parce que lorsque vous lisez la plupart des statuts de toutes ces entreprises transformées en société commerciale, vous verrez qu'il y a des mécanismes. Le mécanisme, justement, d'ouverture des capitaux, des concessions, des cessions, et ainsi de suite. Donc, ça permet au privé de venir. Or, jusqu'à ces jours, toutes ces entreprises n'ont que l'État comme actionnaire unique. Alors, comment voulez-vous, cet État-là, qui est jusqu'à ces jours actionnaire unique, avec tout ce que nous connaissons comme mentalité, comme mode de gestion, que la SNL puisse bien fonctionner. Donc ça, c'est deuxième dimension.
Alors, dernière dimension, rapidement, Gérard Mangoli.
Oui, troisième dimension, monsieur Gier, il faudra que, au niveau de la SNL, actuellement, pour limiter les dégâts, il faudra que les gestionnaires puissent colmater les brèches. C'est-à-dire que, au niveau du réseau, ils doivent faire un effort pour que les techniciens doivent être des gens bien formés et les gens qui opèrent sur le terrain doivent être à mesure quand même lorsqu'il y a du courant dans les cabines, lorsqu'il y a des câbles qui pendent, des poteaux qui sont inclinés, qu'ils arrivent quand même à limiter les dégâts.
Rapidement. Voilà, merci beaucoup, Gérard Mangoli. Voilà, on va accorder aussi rapidement la parole à Michel et à Nestor. Michel, vous êtes à Matadi, rapidement, bonjour.
Oui, bonjour, Matadi.
Vous avez la parole.
Oui, j'aurais voulu seulement ajouter, et lorsque j'ai entendu l'invité, je me suis dit, ce sont des gens qui sont bloqués. Vous savez,
alors, pardon, on n'a pas compris, Michel. Vous avez dit, quand vous avez suivi l'invité.
Oui, j'ai suivi l'invité. Mais par rapport à te dire, je me suis dit que la SNL est bloquée. Vous savez, lorsqu'on entend dire des gens qui se disent qu'ils tombent la faute à Mobutu, moi je dis non. Mobutu avait une politique et vous aussi, vous avez une politique. Parce que je donne un exemple. Nous sommes à Kinshasa. Il y a eu une marche de la population à cause de la surfacturation. Les gens étaient surfacturés. Il n'y a pas du courant. Hein? Il y a une surfacturation. Vous avez dit que c'est Mobutu qui était arrivé de sa tombe pour aller donner ses prix. Non, mais si. Nous sommes dans un état. Chacun a la volonté de devenir ce qu'il veut. Et chacun doit avoir une politique. Je donne un autre exemple. Nous sommes ici à Matadi. Nous avons les expatriés. Nous avons des Indiens, des Chinois. Hein, ça nous éclaire parfois. Vous allez voir, et on du courant 24 heures sur 24. Ben, c'est la population qui marque du courant. Chez nous, il y a des messages. Je trouve ça normal.
Michel, c'est un problème de choix. Dans cette difficulté, il y a certains qui en profitent énormément, tout en achetant tout un départ unique. Voilà, c'est donné ça, il y a les langages départ unique. Bon, on laisse la population à se voir à n'importe quel sein.
Tout ça, ça fait des surcharges. C'est ce qui nous aurait que nous puissions avoir des beaux. Moi, je crois la finalité, il y a compétence. La finalité, parce que nous donnons des postes par clientélisme. Par des
femmes. Voilà, merci beaucoup. Michel, merci beaucoup. Clientélisme, merci de nous avoir noté. Nestor va développer aussi cette thématique. Il est à Boujimoura. Voilà, à Boujibaye. Nestor, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, rapidement, Nestor.
Oui, moi, ce que je disais, que nous, à l'intérieur, précisément dans les Kassai orientales, nous ne pouvons plus compter sur la SNEL. Vous devez savoir que l'énergie électrique, c'était un grand facteur de développement. Si nous n'essayons pas de développer notre province, le grand but, c'est le manque du courant. Alors, qu'est-ce que nous devons nous dire? Nous, dans le mode de la décentralisation, que chaque province puisse se prendre en charge. S'il y a une brèche dans l'ordonnance, il y a une taxe, une taxe spéciale de la convention. Si on pouvait se baser sur cette taxe et que chaque province puisse dire qu'on peut avoir des mini-barrages,
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de
au niveau de l'ESNEL.
Désolé, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas continuer.
C'est ça le grand problème. Donc, chaque province doit se prendre. Au Kassai oriental, je vous ai dit, il y a un point de.
Voilà, on est obligé de vous couper les torts, donc on interrompt en fait cet entretien avec vous parce que là, il y a une mauvaise qualité de communication. On va prendre Ogui qui est à Kolwezi, au Katanga. Ogui, bonjour. Monsieur Ogui, bonjour. Voilà, dommage. Alors, réaction, monsieur Bakali, par rapport à cette série des auditeurs.
Bon, moi, je crois que j'ai beaucoup aimé le dernier auditeur qui parle déjà. Qui dit il faut appliquer la Constitution. Effectivement, la Constitution aujourd'hui fait de l'électricité un secteur partagé entre le pouvoir central et les provinces. C'est quand je parlais du cadre institutionnel, c'est pourquoi je pose la question. Comment voulez-vous appliquer déjà cette loi-là s'il y a un opérateur unique? Vous comprendrez que à Mujimaï, ils disent nous assumons notre responsabilité constitutionnelle. C'est la province qui doit voir comment développer l'électricité en tenant compte des normes définies par le gouvernement central. Mais à Mujimaï, il y a un directeur régional de la SNEL. Mais ce directeur régional reçoit des ordres d'où? Ça, c'est simplement pour éclaircir un peu les idées, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas quand j'ai... Copyright n'a pas modifié le cadre institutionnel, puisque la société SNEL, société commerciale, détient toujours le monopole de fait. Le changement consistera à dire, beaucoup de gens disent par exemple, il faut créer une société de transport, une société de production et de distribution. Or, si on applique la Constitution, les distributions dans les provinces, par exemple, devraient revenir aux provinces, pas à la SNEL. Donc, c'est là où se trouve le vrai débat. Bon, l'ingénieur Mangoyo,
je crois, trois questions.
Et comme il dit qu'il me connaît, donc effectivement il me connaît, ça doit... Bon, je crois que...
À l'époque où vous étiez à la tête, quels étaient les chiffres d'affaires?
Les chiffres d'affaires. Quand je suis rentré à la semaine, je n'ai pas les chiffres en tête, mais les chiffres d'affaires de la semaine se répartissaient de cette manière. Un tiers venait des abonnés domestique. Un autre tiers venait, non, un quart venait des abonnés domestiques, un autre quart des abonnés industriels, et la Gécamine, c'était l'époque de la grande Gécamine, payait les deux tiers. Je me souviens que la facture de la Gécamine en 80 était dans l'ordre de 25 millions de dollars par mois et que la Gécamine payait. Tout le monde connaît l'histoire de la Gécamine, deux ou trois, quatre ans après, la Gécamine est rentrée dans son sommeil, donc la SNEL a perdu pratiquement la moitié de ses ressources. Mais ce n'est, j'aime pas trop revenir sur le problème de gestion. Je crois que, et je l'ai dit, que ça soit moi, que ceux qui sont venus avant ou
après,
nous avons fonctionné pratiquement de la même façon.
Il y avait
les mêmes difficultés. Non,
il y avait des interférences
Non, ce n'est pas un problème.
Interférences,
il y en aura toujours, puisque vous êtes sous
tutelle. Politique, je voulais dire.
Oui, vous êtes sous tutelle d'un gouvernement, donc appelez ça comme vous voulez, c'est le gouvernement qui fait la politique du pays. Mais le vrai problème que nous devons débattre aujourd'hui. Moi, je vous dis, il y a eu à la semaine, les gens se oublient, il y a eu des PDG français. Des ingénieurs français comme PDG. Moi, je crois que le débat sur la gestion des uns et des autres nous amènera vraiment loin. Je ne voudrais pas rentrer là.
La vraie politique d'assainissement.
Mais le vrai. Mais justement, j'ai parlé de l'assainissement.
Mmh.
Ce n'est pas normal que dans une entreprise d'électricité, le concept d'exploitation change et qu'elle devienne assainissement. C'est-à-dire, on passe notre temps à réparer, alors qu'on devait passer notre temps à exploiter, c'est-à-dire à assurer la qualité de service. Mais je vous dis, moi, je suis rentré à la SNEL en 81, tous les dirigeants de la SNEL, et je pense même aujourd'hui, passent leur temps à assainir le réseau. Ce n'est pas normal. À quel moment ce réseau...
Mais pourtant, vous n'avez pas pu proposer, comme l'a dit l'auditeur, un plan d'assainissement réel.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Comme si tout le monde l'avait gardé
un plan d'assainissement. J'ai dit que si je gère, j'exploite un réseau et que je suis amené à faire des plans d'assainissement, c'est que je gère mal le réseau.
Voilà, Ogui et Takolezi, dernière information, on va terminer avec les deux auditeurs et puis on va conclure avec vous, Joe Makali. Vous êtes notre invité en tant que PDG honoraire de la SNEL pour nous donner quand même quelques pistes de solutions parce que 40 ans, selon vous, on fait du surplace. Il faut maintenant penser à repenser autrement et vous avez fait quelques observations par rapport à la loi sur l'électricité, quelques cadres juridiques à changer sur SNEL. Ogui, est-ce que vous partagez cet avis? Bonjour Ogui.
Bonjour. Bon, en fait, je partage pas totalement l'avis à la mesure. Bon, en fait, les problèmes qui se posent au Congo, vous allez constater que depuis l'accession de l'État à sa souveraineté internationale, il y a un problème sérieux qui se pose, c'est l'applicabilité de la loi.
Mm-hmm.
En fait, depuis 2008, comme la loi a été votée sur la transformation de l'entreprise publique, ce qui pose problème, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un cadre de gestion.
Mais c'est l'application. Mais pour vous, c'est l'application. Voilà, rapidement, on dit qu'on a plus assez de temps. Il ne reste que pratiquement 2 minutes à gérer. Qu'est-ce que vous vous proposez concrètement? Rapidement, une phrase.
Bon, pour ça, il faut qu'on entre en profondeur, disons, l'applicabilité effective.
La tête de loi. Voilà. Merci beaucoup. Daniel est à l'ambassade. Daniel, bonjour.
Bonjour Pierre.
Oui, rapidement, comme on a plus assez de temps, vous proposez quoi concrètement pour qu'on arrive à sauver quand même les meubles du côté de la production de l'électricité pour permettre à ce que la population, en tout cas même les Congolais moyens, puissent avoir du courant?
Bon, je ne sais pas, bon, bah, les étudiants, avec les machines, nous en avons marre à cette question.
Voilà, je crois que tout le monde est déjà le rendez-vous. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de participer. Alors, Yadjo, on va terminer avec vous.
Bon.
Voilà, en conclusion, parce qu'il y a eu beaucoup à faire des messages, on ne saura pas tout lire, hein, parce que ça continue toujours à tomber, des messages. En tout cas, disons merci à tous ceux-là qui nous ont écrit, hein, sur notre page Facebook.
Bon, j'ai dit seulement ceci. Je crois qu'on peut résumer, hein. J'ai parlé des 40 ans de l'échec d'une stratégie. Et je crois qu'aujourd'hui, et un auditeur vient de le rappeler, aujourd'hui il y a une avancée. L'avancée est au plan de la Constitution. La Constitution dit ceci exactement, j'oublie l'article, mais que le secteur de l'électricité est un, la gestion du secteur est partagée entre le pouvoir central et le pouvoir provincial et local. Le pouvoir central définit les stratégies, mais l'application de ces stratégies, c'est
au niveau provincial.
Au niveau provincial. Je prends l'exemple de Kinshasa. Quand vous êtes, normalement, si on se réfère à la Constitution, s'il y a des problèmes de distribution d'électricité, c'est le problème du gouvernement de la ville. Mais aujourd'hui, le gouvernement de la ville ne peut rien faire, puisque l'électricité à Kinshasa dépend d'un directeur régional de la SNEL. Qui ne reçoit des instructions que de son DG. Alors que c'est un secteur partagé. Moi, je crois que quand je parlais de la réforme, c'est d'abord l'application de la Constitution. Il faut tirer les conséquences de cette loi-là. Que fait le pouvoir central et que fait le pouvoir local. Et quels sont les instruments que chacun se dote pour assumer ses tâches? Vous reviendrez alors au fameux projet de la commune, bien que bon, c'est justement ça. Le problème aujourd'hui, la SNEL est plus même comme société commerciale dépendant de l'État, c'est une société qui concourt à la centralisation de la gestion de l'électricité. Mais je voudrais simplement ajouter ceci pour terminer. La SNEL aujourd'hui a un statut de société commerciale, c'est-à-dire son capital, il n'y a qu'une ouverture de capital. Mais je pose la question à tous ceux qui le pensent maintenant. Est-ce que aujourd'hui, un vrai père de famille qui a de l'argent, irait mettre de l'argent au capital de la SNEL dans sa forme actuelle? C'est ça la question.
Et gagner.
Est-ce qu'il prendra des risques? Qui est celui-là qui aurait $1 million aujourd'hui? Au lieu de faire du commerce, il dirait, je suis à Guado, je mets mon million comme action de la SNEL. Je pense qu'économiquement, non. Non parce que le cadre tel qu'il est aujourd'hui ne le permet pas.
Voilà merci beaucoup Georges Bakali, connu sous le nom de Joe Bakali, PDG honoraire de la SNEL, d'avoir fourni quelques éléments par rapport à cette thématique. Nous allons prendre rendez-vous avec vous très prochainement, peut-être dans un autre débat, pourquoi pas. Merci et à très bientôt.
Allô? Il ne répond pas?
Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ces débats avec passion. Merci beaucoup aussi à vous tous qui avez suivi ces débats avec attention soutenue. Nous allons prendre rendez-vous avec vous demain. Nous saluons en tout cas Sylvain Matoudou qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Mugimbo sous la supervision de Ben Kabamba. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.